Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle année de En action. Mon nom c'est Daniel Rioux, kinésiologue, animateur de ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit David Gill, un membre des Premières Nations du Québec, un ancien athlète de demi-fond de l'équipe canadienne puis un entrepreneur d'expérience. Alors, bonjour David!
Salut Daniel!
Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour discuter de promotion d'activité physique au sein des communautés des Premières Nations, des défis qui sont reliés à ça. Puis notre objectif, c'est de voir comment on peut utiliser l'activité physique comme outil de développement social. Est-ce que ça te convient comme plan de match, David?
Ah oui, certain. Allons-y.
Excellent. Ben, dans le fond, tu es un membre des Premières Nations. Comment est-ce que cette appartenance-là à cette communauté a influencé ton parcours sportif et entrepreneurial?
Ben, écoute, je peux pas te cacher. Moi, moi, le fait que je sois né sur une communauté, parce que moi, je suis né dans une réserve qui s'appelle Machetewiat, c'est au lac Saint-Jean. Moi, je suis né sur une réserve, j'ai grandi sur la réserve. Moi, c'est ce que moi, je connaissais comme jeune. Puis pour moi, ça a toujours été un avantage, en fait. J'ai toujours trouvé que j'ai été chanceux de venir de ce milieu-là. Entre autres parce que moi, comme athlète, ben tu veux toujours te distinguer de la compétition, tu sais, que ce soit pour la recherche de commanditaires, que ce soit pour la visibilité, pour n'importe quoi, tu sais. Puis le fait que je sois membre des Premières Nations, que je vienne de la communauté, pour moi, ça a toujours été un bel avantage pour ça. Puis c'est aussi, tu sais, ce que tu veux à un moment donné dans ton après-carrière, c'est faire la différence. En tout cas, moi ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, c'était de venir redonner un peu des choses que j'avais appris. Puis le fait que je sois membre des Premières Nations, ben ça me donnait un peu une porte d'entrée vers ces milieux-là où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fait que, bref, pour moi, le fait de venir d'une communauté puis d'avoir cette appartenance-là, ça s'est traduit en tout plein d'avantages.
OK. Puis, c'est quoi les différences là, qu'il y a sur une réserve versus dans la communauté là, hors réserve là, au Québec?
Ben, c'est une bonne question. En fait, premièrement, moi, j'encouragerais tout le monde à aller voir une communauté. Peut-être pas là en temps de pandémie, mais c'est quand même un non-sens qu'on entende parler des Premières Nations, puis qu'on soit si près, puis en même temps si loin l'un de l'autre. Parce qu'en réalité, des communautés autochtones, il y en a tout plein partout sur le territoire du Québec. Puis ça vaut la peine d'aller voir ces milieux-là pour voir, tu sais, comment ça marche pour vrai. Puis les gens sur communauté sont super, super accueillants. Puis il y en a des choses à faire, il y en a des choses à découvrir sur communauté. Fait que bref, juste une petite parenthèse comme ça. Comment c'est différent? Je te dirais que le milieu de vie d'une communauté, ça ressemble beaucoup à... C'est une vie en région, dans le fond. C'est qu'en région éloignée. Fait qu'il y a... On se le cachera pas. Au niveau des opportunités, il y a des grosses, grosses lacunes. C'est pas propre aux réserves. C'est propre aux très petits milieux. Puis, c'est des milieux aussi où on va donc avoir un peu moins d'opportunités dans la masse d'activités qu'on peut pratiquer. C'est dommage, mais c'est vrai. Puis, le succès des activités va dépendre beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui s'impliquent. C'est vraiment ça. Tu sais, au final, là, quand tu es dans une communauté, peu importe où cette communauté-là, si tu as quelqu'un qui est passionné de quelque chose puis qui décide de mettre la main à pâte, puis d'organiser des activités, puis de promouvoir ça, ben finalement, ça va avoir un impact, ça, tu sais, pour toute une génération. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une compétition qui a été organisée quand j'avais 11 ans, qui s'appelle les Jeux autochtones interbandes. Puis les Jeux autochtones interbandes, c'est un peu comme les Jeux du Québec, mais pour les jeunes sur communauté. Puis oublions pas non plus, pour un jeune sur une communauté éloignée, les Jeux du Québec sont encore plus loin que pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui habite à Québec, qui habite à Montréal, qui a déjà un club sportif chez eux. Tu sais, ces compétitions-là que nous, aujourd'hui, on voit comme étant des compétitions accessibles à tous, sont pas si accessibles que ça. Mais les jeux autochtones interbandes, quand ça a été fondé, quand moi j'avais 11 ans, ben, ça nous donnait accès à une compétition provinciale à laquelle on pouvait vraiment aspirer, participer. Puis je te dirais que c'était la seule. Pour moi, c'était la seule. Dans ma vie, là, je parle souvent des Jeux autochtones interbandes comme étant l'événement fort, PHARE, là, que c'est genre la lumière que je voyais au loin, année après année, puis qui me motivait à ben, pas sombrer dans l'ennui, dans le fond, tu sais, qui me motivait à me préparer à quelque chose. Fait que je me suis trouvé vraiment chanceux d'avoir cet événement-là. Puis, mais une des grosses différences entre, c'est ça, mon milieu, moi, sur communauté, puis les milieux hors communauté, c'est que j'ai l'impression que moi, ça, c'était un des seuls événements auxquels j'avais accès, pour lesquels je pouvais me préparer.
Puis, est-ce que, ben, dans le fond, c'est, ce que tu dis, c'est intéressant. Puis, on le remarque aussi là, dans différents sports. Puis, c'est comme, moi, je viens du milieu du badminton là, à la base, là, au secondaire, c'était ça qu'on faisait. Puis, une chose qui était intéressante au badminton, là, c'est que des fois, il y a des écoles qui étaient très, très fortes dans certains sports, puis qu'au badminton, ils n'étaient pas nécessairement fortes. Puis à l'inverse, il y a des écoles qui avaient juste un sport, puis il y avait quelqu'un de vraiment impliqué comme coach de badminton. Cette école-là était super forte dans ce sport-là parce que ça dépendait de l'implication d'une seule personne. Le problème qu'on a avec ça, c'est que quand cette personne-là soit elle devient plus motivée ou à déménage, peu importe, ben là, tu perds cette genre d'organisation-là puis cette structure-là qui dépendait de juste une personne. Et ça, est-ce que c'est un enjeu que tu as identifié dans plusieurs communautés?
Tu as 100% raison là-dessus. Ben spécifiquement pour le badminton, c'est un bon exemple parce que nous, dans les communautés, il y a justement eu ce genre de personne-là, une personne motivée qui a voulu développer le badminton à, je me souviens pas si c'est Wahat ou Maliutenam, mais en tout cas, une des deux communautés à cette île. Puis eux ont développé vraiment une dynastie de badminton. C'est eux qui gagnent absolument tout dans toutes nos communautés, les compétitions pour Première Nation. Justement, à cause qu'ils ont eu la chance d'avoir une personne qui s'est établie là, puis qui était passionnée, puis qui a développé ce sport-là à cet endroit-là. Puis oui, puis tu vois, tu me demandais au début, c'est quoi la différence entre les communautés, puis qu'est-ce qui est particulier sur communauté? Je te dirais que le roulement personnel, c'est quelque chose de vraiment capoté, puis d'assez nuisible dans des communautés éloignées. De temps en temps, tu as quelqu'un qui arrive sur place puis qui est hyper motivé, qui fait des choses extraordinaires. Puis souvent, cette personne-là ben, arrive à la fin de son mandat, arrive après quelques années, puis là, ben, elle déménage juste parce que c'est pas parce que l'environnement n'était pas le fun, c'est que c'est plus aligné avec ce que cette personne-là voulait faire. Puis ça laisse un trou, ça laisse un gros trou en arrière. C'est pour ça que de plus en plus, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec les communautés pour essayer de développer de l'expertise localement pour que les initiatives qu'on développe soient pérennes. Tu sais, c'est bien beau d'avoir un programme qui est super pendant un an, mais qu'est-ce qui va se passer à l'année 2? Qu'est-ce qui va se passer à l'année 3? C'est toutes des choses qui doivent absolument faire partie de n'importe quelle initiative qui est développée dans ces milieux-là.
Fait que ça, ce serait un des défis là, qui est rencontré à promouvoir l'activité physique sur une réserve. Est-ce qu'il y en a d'autres des défis reliés à la promotion d'activité physique, puis je dirais la santé de façon globale. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont à affronter pour surmonter dans une réserve?
Écoute, est-ce que c'est des enjeux spécifiques aux Premières Nations? Je crois pas. C'est drôle, moi je vois juste tout plein d'avantages, tout plein d'opportunités, tu sais, le fait que le niveau d'activité physique soit relativement bas, ben ça, moi encore une fois, je vois ça comme une opportunité, tu sais, d'aller en faire. Les chiens, c'est une réalité, les gens sont pas au courant, les communautés autochtones, un bon pourcentage des communautés ont des problèmes de chiens errants. Puis on parle de, fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens. Là. Fait que moi, dans des projets que je développe, souvent j'entends ce feedback-là, là, des gens qui ont peur de sortir dans les rues parce qu'il y a des chiens qui se promènent dans les rues, puis ça. Souvent, il n'y a pas de danger avec les chiens, mais les gens ont quand même peur. Moi, comme coureur, je les comprends, là, tu sais, un chien pas attaché, ça nous fait peur quand on, c'est surtout quand on court. Puis ça, c'est une réalité qui est, avec laquelle il faut jongler. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a certains avantages. Tu sais, les réserves, c'est des milieux qui sont très, très petits. Fait qu'au niveau de la sécurité routière est un peu moins un enjeu, tu sais, sauf si la communauté, par exemple, avec Wanchit, qui est sur la côte nord, où là, c'est une communauté qui est vraiment directement sur la route régionale. Fait que la route passe, en fait, pratiquement dans le milieu de la communauté. Fait que là, il peut y avoir certains enjeux. Mais règle générale, c'est pas trop un problème, mettons.
OK. Puis, dans le fond, toi, tu développes des projets présentement. Ben, en fait, avant, dans ta carrière, tu as été athlète de haut niveau sur l'équipe canadienne. Tu as aussi fait partie d'un logo. On en parlait avant de commencer. Ouais. Fait que tu fais partie d'un logo.
C'est le logo de la Clinique du coureur. Tu parles, si les gens, vous avez peut-être entendu parler de la Clinique du coureur. J'ai mon manteau. J'ai un manteau aussi à quelque part. Regardez, vous connaissez peut-être ce logo-là. La clinique du coureur. Ouais. C'est le petit coureur qui est là. Ça, c'était une photo de moi que tantôt que je courais, que la clinique du coureur avait besoin d'un coureur pour un logo. Fait que il y a un infographiste qui a fait le contour de mon corps sur cette photo-là pour en faire un logo. Moi, quand je leur ai donné ça, je savais pas en fait à quel point ce logo-là allait faire du chemin. Maintenant, il est affiché à peu près sur tous les arbres au lac Beauport pour faire la signalisation des parcours de la course, le trail, de la clinique du coureur.
Est-ce qu'il t'envoie une royauté à chaque année pour ça? Ou
Oui, probablement. Je l'attends encore. Je l'ai pas encore reçu.
On va en prendre note d'envoyer ça à Blaise. fait que t'as fait ça, t'as été athlète, mais t'as été entrepreneur aussi. Présentement, t'as différents projets. Comment ça fonctionne, tes projets? Est-ce que c'est comme des appels d'offres du gouvernement? Est-ce que c'est relié directement à la réserve? C'est quoi la structure de ces projets-là?
C'est une bonne question. Ça dépend, en fait. Moi, premièrement, ben, ça faisait pendant à peu près 10 ans, j'étais fondateur de ma compagnie en logiciel, puis c'est ce qui prenait la majorité de mon temps. Puis voilà à peu près 2-3 ans, dans le fond, là, je me suis levé un matin, puis ça allait plus ou moins, j'avais l'impression que je faisais un peu de surplace, puis je me suis dit, OK, là, je veux revenir à mon ancien amour, ce que je faisais pendant ma carrière, puis un peu après ma carrière, c'est-à-dire travailler en promotion des saines habitudes de vie chez les Premières Nations. Je voulais vraiment revenir vers ça. Fait que là, je me suis libéré de ma compagnie, dans le fond. J'ai continué à me payer seulement une journée et demie par semaine par ma compagnie. Puis, j'ai pris 3 journées et demie par semaine pour être bénévole dans la création de projets quelconques pour la promotion des saines habitudes de vie. Fait que c'était bénévolement au départ. Puis là, dans le fond, j'avais tout plein d'idées, de trucs que je voulais mettre en application. Là, je me suis lancé là-dedans. Mais ça tombe qu'il y a certains de ces projets-là qui ont été repris par des organismes. Puis que là, j'arrive à payer des factures avec ces projets-là qui, originalement, étaient des projets bénévoles. Fait que, par exemple, il y a la Fondation Nouveau Sentier, qui est une fondation pour le bien-être des enfants des Premières Nations, qui, eux, ont pris un des projets que j'avais conçu, puis eux financent le projet. Donc là, ils se sont retrouvés avec les parties que moi j'aimais un petit peu moins, qui est la recherche de financement puis tout ça. Puis donc c'est devenu leur projet à eux. Ça, ce projet-là, c'est le défi du renard. En tout cas, ça, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est un de ces projets-là. Ensuite de ça, ben, il y a un beau projet qui fonctionne vraiment, vraiment bien qui s'appelle Ouchiquette 5 km. Ouchiquette 5 km, ça, c'est en Innu. Ça veut dire mon premier 5 km. Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça amène les gens du point de départ où ils sont présentement. C'est-à-dire, dans le fond, tout ce que je leur demande au départ, c'est de marcher 10 minutes. Puis qui les amène progressivement à courir leurs premiers 5 km sans pause. Puis ça, c'est un projet qui est c'est bénévole, c'est quelque chose que j'ai bâti pour le plaisir. Puis qui a cet été, il y avait à peu près 1000 membres des Premières Nations qui étaient sur ce projet-là. 1000 sur, tu sais, sur, on n'est quand même pas beaucoup de membres des Premières Nations au Québec, fait que c'est un taux de pénétration qui était quand même pas pire. Donc là, il y a de plus en plus de gens sur communauté qui apprennent à courir, qui apprennent dans le fond qu'eux aussi peuvent faire de la course à pied. Alors que eux, alors à cause d'un surplus de poids, à cause d'un historique de blessure, à cause d'un âge avancé, pensaient que la course à pied était complètement impossible. Alors que, ben, toi tu le sais, Daniel, que si tu es assez progressif, en réalité, ton corps peut s'adapter à peu près n'importe quoi. Il faut juste que tu lui donnes le temps de s'adapter à chacun des nouveaux stimuli le fais traverser.
Ça me fait penser à une question, là. La fois, tu me disais qu'il y a 1000 personnes qui ont participé aux 4-5 km. Est-ce que, la fois, toi, tes communications, là, c'est très terrain comme question, mais est-ce que toi, tes communications sont en français, en anglais, en inou, ou comment ça fonctionne?
Bonne question. Dans le cas du 4-5 km, c'est en français uniquement. Les gens parlent sur le groupe Facebook, souvent vont parler en Innu,
OK.
mais l'Innu, ça, c'est une seule des
C'est ça?
langues des Premières Nations. En réalité, il y a 9 nations au Québec, chacune avec avec sa propre langue. Fait que en réalité, l'Innu, c'est ça, c'est parlé par seulement un petit pourcentage des Premières Nations, même ici au Québec. Ouais. Puis avec moi, mes communications pour l'instant sont seulement en français. La version anglaise d'Ushka-5 km, c'est quelque chose que j'ai dans les que je prévois faire à un moment donné, mais j'ai pas encore eu le temps. C'est juste dans le cas d'Ushka-5 km, c'est quand même assez demandant parce que là, je t'ai parlé de dans le fond, c'est que c'est un courriel d'entraînement qui est envoyé à chaque personne à chaque matin, 80 entraînements de suite. Fait que c'est à tous les jours, 5 jours par semaine. Les gens reçoivent un courriel où là, je leur explique c'est quoi l'entraînement qu'ils doivent faire le jour même, mais c'est accompagné d'une vidéo aussi. Fait que c'est une capsule que je filme avec mon téléphone. Fait que la qualité bref, c'est du bonbon pas cher, très, très, c'est du très
Authentique,
concret,
là.
mettons, de l'authentique, exact. Puis là, j'explique aux gens une notion par rapport à la course à pied, par rapport à, mettons, comment choisir sa chaussure, est-ce que les étirements c'est important ou non, bon, des affaires comme ça. Mais ça, c'est au final, ça fait beaucoup, beaucoup de matériel. Fait que me lancer dans la version anglaise,
Ah
ça va
ouais.
augmenter pas mal de travail.
Ouais.
Ouais.
C'est clair. Parce que tu sais, ben nous, on a ce défi-là avec Défi Entreprise. Puis tout doublé, là, c'est. En fait, tu prends le travail que tu faisais, tu le doubles, puis c'est pas mal ça, là, le deal là, que tu as quand tu veux faire quelque chose de bilingue. Fait que c'est quand même un défi, là.
Ouais.
OK.
Ah oui, exact. Puis c'est ça, fait qu'il y a plusieurs autres projets sur lesquels je travaille, mais pour revenir à ta question, c'est comment je finance ces patentes-là, comment ça marche. C'est ça dépend. Dans le cas de Ouchiquette, je continue à le faire par moi-même parce que c'est un projet qui ne coûte rien. La Fondation Nouveau Sentier est embarquée. Dernièrement, il y avait il y a le Conseil en éducation des Premières Nations qui était je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais c'est un peu comme une commission scolaire. De la majorité des écoles des Premières Nations au Québec. Puis eux, c'est leur travail de développer, dans le fond, de supporter les écoles puis les enseignants sur communauté. Puis eux, j'ai développé pour eux un autre projet qui s'appelle le Défi des ancêtres qu'on est en train de lancer présentement. Puis dans ce cas-là, c'est eux qui sont en charge de toute la partie financière. Encore une fois, moi, c'est une partie que j'aime un peu moins. Fait que moi, j'ai le beau rôle là-dedans, là, dans le fond, c'est que moi, je leur ai. Eux avaient besoin de quelque chose en temps de COVID ou post-COVID. Puis j'avais des idées, fait que je leur ai bâti le concept, puis eux, en fin de compte, arrivaient avec les bailleurs de fonds puis tout ça pour mettre ces idées-là en application.
OK. C'est très cool. Fait que dans le fond, juste si tu nous fais un résumé là, des projets que tu as en ce moment, là, il y a David Gill, puis là j'ai compris qu'il y a le défi. Il y a Ushkat 5 km, le défi des ancêtres, il y a le défi du renard, c'est ça que j'ai compris tantôt?
Oui, exact, le
OK.
défi du renard. Ben, le défi du renard, c'est quand même assez cool aussi. Le défi du renard, dans le fond, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire des renards. Puis qu'est-ce que c'est un renard? Un renard, c'est quelqu'un qui parcourt à la marche, en raquette ou à la course à pied, la distance de 2 km.
OK.
Fait que c'est super facile. N'importe qui est capable de le faire. Tout ce que ça prend, c'est un petit peu de motivation. Tu parcours la distance de 2 km, puis tu deviens renard. Quand tu es renard, tu te retrouves avec la médaille du renard. Je pourrais même t'en montrer. Puis une fois que tu es renard, ben là, tu peux passer au défi suivant, qui est le défi du porc-épic, où lui, c'est pour la distance de 4 km. Là, regarde, ça, c'est la médaille, comme par exemple, ça, c'est la médaille du porc-épic. Puis c'est très propre aux Premières Nations, ça, c'est important pour moi. Là, tu peux voir, ça, c'est le mot porc-épic qui est affiché dans toutes les langues autochtones
Très cool.
du Québec. Puis, dans le fond, là, on est d'accord, même 4 km, c'est encore assez facile à faire. Tout ce que ça prend encore, c'est de la motivation. Mais ce qui est là où ça devient intéressant, le défi du renard, c'est que là, à un moment donné, en passant de 4 km à 6 km, à 8 km, à un moment donné, tu arrives au stade où ce que pour réaliser le prochain défi, t'as pas le choix de commencer à faire des changements dans tes habitudes de vie. T'as pas le choix de dormir un petit peu mieux la nuit d'avant. Le jeune va dire, hey maman, ce soir je mangerai pas de chips, je mangerai pas de cochonneries parce que demain je veux faire mon défi. Puis petit à petit, on est capable d'amener des changements dans les habitudes de vie de ces gens-là qui sont au départ motivés seulement par un bout de plastique. Puis, ben, pas de plastique, c'est du métal, mais en tout cas. C'est drôle parce que tu me parlais au début des différences sur communauté, entre les communautés puis hors communauté. Nous, ici à Québec, des médailles, je suis sûr que toi, avec Défi Entreprise, tu as eu la réflexion souvent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à donner des médailles à tout le monde? Parce que moi, comme coureur, j'en ai tellement eu que je les jette aux poubelles, puis j'ai comme l'impression que ça pollue plus que d'autres choses. Dans les faits, pour ces jeunes-là, avoir une médaille, c'est encore un grand événement pour eux. T'sais. Quand on leur met la médaille autour du cou, c'est une grande réalisation, ça veut dire quelque chose. C'est ça. Pour eux, c'est encore un symbole de quelque chose qui en signifie beaucoup.
Puis est-ce qu'il y a un... Mettons, pourquoi il y a le défi Oush 4-5 km, puis ce défi-là du renard? Il y en a un qui c'est pour les adultes, il y en a un qui c'est pour les jeunes, c'est tout ça?
Pratiquement. En fait, c'est que le défi du renard, ça, c'est vraiment quelque chose qui est stand-alone, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan de préparation qui vient avec ça. C'est vraiment juste, tu veux avoir ta médaille, parcours cette distance-là, puis tu vas avoir ta médaille. Puis le lendemain, si tu veux continuer, ben continue. Mais ça peut être fait seulement à la marche tout le temps. Donc, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas d'entraînement qui est nécessaire pour ça. Puis si la personne veut s'entraîner, mettons, si la personne est rendue à la médaille du 8 km, puis elle veut avoir son 10 km, puis elle veut se préparer, ben là, on va lui dire, par exemple, va sur le site de la Clinique du coureur, faire une recherche sur le web pour te trouver un programme. Ça sort du mandat du projet. Ou jusqu'à 5 km, ça, c'est vraiment
C'est
plus.
l'inverse finalement. C'est quasiment.
C'est comme exact. Tu pourrais très bien passer à travers le programme Oush 4-5 km pour te préparer pour faire le défi du renard à la course. Fait que le Oush 4-5 km, c'est vraiment juste la partie entraînement. C'est, dans le fond, tu veux courir ton premier 5 km sans te blesser, puis sans avoir à prendre de pause. Bon, ben, voici ton premier entraînement, puis demain, on t'en envoie un, puis le lendemain, on t'en envoie un. 80 jours de suite. Puis après 80 jours, tu cours ton premier 5 km. Mais tu n'auras pas de médaille, tu n'auras pas de grand événement avec tout le monde. C'est 100% virtuel, là, dans le code du 4-5 km. Ouais. Fait que tu vois, c'est un qui est un peu plus. Je te dirais que au 4-5 km, le défi du renard est pour tout le monde. Ça intéresse les plus vieux, ça intéresse les plus jeunes. Tout le monde, je pense que ça accroche quand même assez bien les jeunes et les moins jeunes. Ou jusqu'à 5 km est clairement pour les personnes plus âgées, les personnes plus, mettons, les adultes et plus. Les jeunes sont, tu sais, quelqu'un qui s'inscrit à ou jusqu'à 5 km, c'est quelqu'un qui veut nécessairement être plus en forme, être plus en santé. Ça raccroche un petit peu moins les enfants. Tu sais?
Je comprends.
Puis justement, on parlait de cet autre projet-là tantôt, le défi des ancêtres.
Ouais.
Ben, le défi des ancêtres est né au départ. parce qu'on recherchait quelque chose qui raccrocherait les gens autant que aux 4-5 km, mais qui serait cette fois-ci plus adressé aux jeunes. Parce que Ouchiquette, ça marche au bout pour les plus vieux. Puis là, on n'avait rien pour vraiment, vraiment pour les enfants. C'est là qu'on a conçu le défi des enfants.
Tu sais, une des choses que je remarque là, c'est que des fois, c'est bien de fournir un programme d'entraînement aux gens, mais après ça, il faut fournir un certain accompagnement. Comment cet accompagnement-là est fait? Puis c'est quoi tes trucs pour qu'il y ait une adhésion, pour que les gens se rendent au bout de leur programme d'entraînement, mettons dans ou 4-5 km? Est-ce que toi, tu te déplaces dans chacune des communautés? Est-ce que c'est des conférences que tu donnes? Comment ça se passe?
Puis t'as raison là-dessus, tu sais, c'est bien beau. Des fois, on a des comme concepteurs de projet, on a une idée, tu sais, puis on pense que notre idée est bonne, on se met dans la tête que tout va être beau, que tout va être simple. Puis en fin de compte, ça devient beaucoup une réflexion marketing. Tu sais, il faut se mettre dans la peau de notre client cible. Quels sont les. Tu sais, sa journée, elle va être comment pour vrai à cette personne-là? Tu sais, c'est quoi les embûches qu'il va rencontrer? C'est quoi, tu sais, c'est quoi les obstacles de la vie qu'elle va rencontrer pour vrai, là? Puis comment est-ce que notre projet peut pallier le plus possible à ces affaires-là? Puis souvent, souvent, la clé est dans la simplification. Tu sais, ta belle grande idée là, de projet, ben comment est-ce que tu peux la focusser? Comment est-ce que tu peux la simplifier le plus possible? Souvent, les idées, c'est ça, les idées gagnantes sont vraiment, vraiment simple. Puis, tu l'as dit, de parler d'accompagnement, ça, c'est super important. T'sais, on aimerait bien, comme concepteur de projet ou comme gestionnaire d'entreprise, tout automatiser. Puis, on réalise assez vite que c'est difficile de faire faire le travail d'un humain par quelqu'un d'autre qu'un humain. T'sais. Puis, fait que d'être impliqué personnellement, t'sais, de vraiment développer des liens personnels avec les gens. C'est vraiment important. Dans le cas d'Ouchiquette 5 km, ben, je te rappelle, dans le fond, Ouchiquette, c'est une série de courriels. Ça, c'est automatisé. C'est que dans le fond, moi, à un moment donné, j'étais parti en voyage d'escalade à quelque part. J'ai eu cette idée-là. Puis là, j'ai commencé avec Mailchimp à bâtir le courriel numéro 1, courriel numéro 2, courriel numéro 3. Puis là, je mettais mon téléphone sur la table de pique-nique en avant de moi. Je me filmais. Puis là, c'est là que j'ai fait un appel à tous sur Facebook. J'ai dit, hey, je teste une nouvelle patente. Qui est-ce qui veut s'inscrire? Fait que là, les gens ont commencé à recevoir les courriels. Puis moi, je bâtissais les courriels à mesure. Bon, fait que ça c'est juste la partie automatisée. Et moi je savais qu'on allait avoir un trou au niveau de la motivation parce que dans le fond le gros facteur limitant c'est pas la qualité du programme. T'sais, la raison pour laquelle les gens perdent pas de poids c'est pas parce que le programme sont pas assez bons. C'est une question de motivation. C'est toujours ça. C'est toujours que dans le fond travailler fort c'est dur. Puis ça nous tente pas. Puis fait qu'il faut adresser cette question-là la motivation. Dans le fond, ce que j'ai fait par rapport à ça, dans le cadre de Ouchiquette 5 km précisément, parce que c'est pas toujours ça la solution, ben nous, c'était un groupe Facebook, puis les gens ont l'obligation, puis je dis bien l'obligation, parce que c'est un programme gratuit que je fais bénévolement. La seule chose que je te demande, si tu veux participer, c'est de publier soit avec une photo, une vidéo ou un message sur chaque entraînement que tu fais. Fait qu'il y en a qui prennent juste une photo de leur soulier avant de partir, publient, puis c'est tout. Il y en a qui prennent une photo d'une perdrix qu'ils ont vue dans un sentier. Il y en a qui font une vidéo complète sur comment ils se sentent. Peu importe. Fais n'importe quoi, mais publie quelque chose et encourage les autres. C'est tout ce que je demande. Mais là, ce que ça fait, là, c'est que ça fait, il y a de la discussion, c'est riche, ça n'arrête pas de se parler. Puis là, parce que tout le monde parle, ben là, tout le monde veut parler. Puis finalement, la motivation vient un peu d'elle-même. Vient un peu d'elle-même, oui et non. C'est important que moi, comme gestionnaire de tout ça, je reste impliqué. Les gens, je pense qu'ils apprécient que je les encourage, que je publie moi aussi, puis tout ça. Fait que ça, j'ai déjà fait le test là d'essayer de me retirer un peu puis je vois que la motivation baisse là. Fait que on reste c'est important comme concepteur comme locomotive là-dedans c'est pour garder la motivation mais c'est possible de mettre en place des systèmes qui sont très simples que les gens sont sont déjà habitués d'utiliser, comme par exemple un groupe Facebook, pour nourrir la motivation, dans le
Mais
projet.
c'est un super bon, c'est une bonne façon de créer de la, j'ai le mot en anglais, accountability, là, tu sais, d'avoir un engagement à poster chaque jour, à chaque entraînement, puis de le rendre visible aux autres. Là, ça, c'est un super bon concept. Surtout sur un groupe Facebook dans lequel il va y avoir de l'émulation, là. Quand tu vois, mettons, je sais pas, Georges qui s'entraîne, puis qui s'entraînait pas avant, puis là, lui, il réussit, puis là, toi, tu te dis, hey, moi, je suis capable, je suis pas capable. Ben, la réponse, c'est oui, parce que Georges est en train de le faire, lui. Et en plus, ben, ça fait des notifications régulières. Fait que, tu sais, ça finit par faire un ensemble de facteurs qui augmentent tes chances de faire de l'activité physique plus souvent puis sur le long terme. Très bon. C'est une très bonne idée, le gros Facebook, puis de rendre ça gratuit, mais avec une obligation de publier. J'adore le concept. C'est une très bonne idée. Fait que là, dans le fond, là, j'ai compris qu'il y a trois projets. Défi des ancêtres qui s'adresse plus aux jeunes à l'école pour créer un sentiment d'appartenance.
Exact, ben ça, on n'en a pas parlé, en
C'est
fait.
vrai?
On a parlé du défi, ben, de ou jusqu'à 5 km, qui est plus pour les personnes, les adultes et plus. On a parlé du défi du renard, qui lui est pour toute la population au complet. Le défi des ancêtres, ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. J'ai fait un petit post sur mon Facebook juste avant les fêtes pour dire que ça s'en venait.
Oui.
Ça, dans le fond, ça, c'est une initiative qui est chapeautée beaucoup par le Conseil en éducation des Premières Nations, comme je te disais. Ça, c'est venu parce que, dans le fond, le Conseil en éducation des Premières Nations organisait à chaque année une compétition provinciale, un peu comme les Jeux autochtones interbandes que je t'expliquais au début. Mais eux, c'est des jeux plus scolaires. Donc, ça s'appelle les Jeux interscolaires du Conseil en éducation des Premières Nations. Fait que c'est pour des délégations, des écoles, où là, tout le monde vient faire une compétition à chaque année au PEPS de l'Université Laval, des compétitions en basketball, en volleyball, en athlétisme. Bon, un genre de jeu du Québec des Premières Nations, mais où tu représentes ton école. Fait que ça, c'est ce qu'eux organisaient à chaque année, depuis plusieurs années. Mais là, à cause de la pandémie, eux, ben, ils allaient annuler les jeux, puis malheureusement, ben, ces jeunes-là allaient se retrouver avec rien du tout. Fait que là, moi, ce que je leur ai dit, c'est est-ce que vous me permettez de vous proposer un nouveau concept qui va remplacer les jeux interscolaires, puis qui va permettre à vos jeunes d'avoir un événement qui va s'en venir bientôt chez eux, qui va les motiver à l'école, qui va les rattacher à leur école, parce que ça, c'est important. La partie, le décrochage scolaire chez nos communautés est quand même un gros problème. Puis, ce qu'on veut, c'est rattacher le jeune à l'école, tu sais, qui aime son milieu scolaire, qui soit fier de son école, qui soit fier de porter les couleurs de son école, parce qu'on sait que ça va avoir un gros impact sur le taux de décrochage. Fait que bref, je leur ai demandé si je pouvais leur développer un concept qui fonctionnerait mieux, qui serait plus sécuritaire en temps de pandémie. Fait que là, on m'a dit oui, vas-y. Fait que là, je leur ai développé le concept du défi des ancêtres. Le défi des ancêtres, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond une course à obstacles mobile, un peu comme la Spartan Race, un mélange entre Spartan Race puis Ninja Warrior. C'est Ninja Warrior, tu as un bouton, un gros bouton rouge que tu appuies à la fin de ta course. Ça, je trouvais ça cool. Puis, c'est un mélange entre ces deux concepts-là. Puis, j'ai eu la chance de travailler, ben, je pense que tu connais Marco Bédard, c'est lui qui a initié la Northman Race, puis tout ça. Fait qu'assez tôt dans le processus, j'ai pu me coller à Marco Bédard, qui est un super spécialiste dans tout ce qui est course à obstacles. Fait que ça a fait que cette idée-là que j'avais a vraiment pris forme et est devenue réellement gagnante. Puis dans le fond, c'est ça qu'on se prépare à livrer sur communauté après la pandémie. Donc, ce n'est pas un projet qu'on va livrer pendant la pandémie de COVID. Mais en fait, il y a comme une situation un peu particulière avec les communautés, là. C'est que tu étais peut-être au courant, les adultes sur communautés autochtones vont faire partie des groupes vaccinés en premier. Fait qu'on a comme le droit d'espérer que la pandémie va être sous contrôle un peu plus rapidement sur communautés autochtones qu'ailleurs. Mais bref, que ce soit le cas ou non, Ben, nous, dans le fond, le défi des ancêtres, on l'a bâti. Il est déjà sur un trailer. Il est prêt à être livré sur communauté immédiatement quand on va pouvoir le faire de manière sécuritaire. Fait que c'est la communauté qui va décider si c'est sécuritaire ou non pour nous d'y aller. Nous, on n'est pas pressé d'y aller. C'est juste que, dans le fond, on va être prêt à y aller aussitôt que ça va être réellement sécuritaire pour la communauté. Puis là, à ce moment-là, ben, nous, on se déplace sur communauté, on monte la course à obstacles dans la cour d'école du jeune, on fait sortir les jeunes de l'école, ils font la course deux par deux, les performances des jeunes sont enregistrées sur un site web où là, on peut faire des concours par âge, par sexe, par classe, par école, même par nation. Donc, parce que la course, elle est standardisée. C'est-à-dire que c'est exactement la même course à obstacles qui est montée dans chaque milieu. Fait que chaque communauté va avoir son petit événement chez eux pour va pouvoir se comparer aux autres communautés. Puis pourquoi le défi des ancêtres? Ben parce que, en fond, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un genre de signature à la Spartan Race, mais propre aux Premières Nations. Puis dans le fond, le défi des ancêtres, c'est que c'est, en fond, moi, ce que je pensais à mon grand-père Joseph, qui lui était guide de chasse, t'sais, qui passait ses journées sur le territoire. Puis, je voyais des personnes comme mon grand-père puis ses autres ancêtres-là nous regarder de haut aujourd'hui puis nous dire, t'sais, hey, t'sais, moi, dans une course à obstacles comme ça, j'en faisais une avant de déjeuner tous les jours, là, t'sais. Puis là, je vous regarde aujourd'hui sur vos tablettes, sur vos jeux vidéo, vos écrans, là. Montrez-nous donc ce que vous êtes capable de faire. Fait que dans le fond, ça devient pour les jeunes des Premières Nations une manière de montrer à leurs ancêtres qu'eux aussi sont capables de passer à travers des épreuves, eux aussi sont capables de se donner la vie difficile puis de réaliser des objectifs, des épreuves. Donc, c'est l'idée derrière le défi des ancêtres. C'est quelque chose qui va, c'est ça, ça va avoir lieu, ben, aussitôt que la pandémie va le permettre. Puis là, on est à l'étape de recherche ben, pas de financement. Je dirais qu'au niveau financement, il y a des bailleurs de fonds qui se sont présentés, qui donnent un coup de main. Moi, j'aimerais apporter la partie corporative à ça, là. J'aimerais qu'il y ait des entreprises qui se joignent à l'aventure pour participer à ce déploiement-là. Là, on est là-dedans.
Ah, c'est très très cool. C'est une super bonne idée. Fait que ça, c'est. T'as-tu d'autres projets en dehors de ça? Ou ça, c'est comme tes trois projets principaux?
C'est les projets principaux sur lesquels je travaille là présentement.
Ouais.
Il y en avait avant, il y en a d'autres que je projette qui sont peut-être un peu trop fous, là. J'attends que le moment soit propice. Mais je te dirais que présentement, j'ai comme de la misère à trouver mon temps, puis faut que je me garde du temps pour faire du ski de fond, puis de la course, puis
Ben
de
oui.
l'escalade aussi, là. Fait que combiner toutes ces implications-là avec ma propre qualité de vie, c'est déjà un petit peu compliqué. Ouais.
C'est bon. Dans le fond, on pourrait dire que tu es un entrepreneur social. Tu sais, dans le fond, tu lances des projets, puis à l'intérieur de ces projets-là, tu vises à avoir le plus grand impact social possible. C'est bien ça.
Je pense vraiment, oui, puis c'est drôle parce que tes enfants, quand quelqu'un demande à tes enfants qu'est-ce que papa fait dans la vie, puis tes enfants peuvent pas répondre, ça te fait te questionner, OK, finalement, est-ce que qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que papa fait dans le fond? Puis autrefois, j'étais un entrepreneur, tu sais, en logiciel. Ça a été ça pendant longtemps. Puis je dirais que ça fait à peu près un an que là, je me définis beaucoup plus justement comme je dis souvent activiste, dans le fond, c'est quelqu'un en promotion de l'activité physique, promotion des saines habitudes de vie, spécifiquement chez les Premières Nations. Fait que, oui, peut-être, le terme que tu as utilisé, c'est quoi,
Entrepreneur social.
entrepreneur social?
Ouais.
Ouais, j'aime ça. Puis moi, justement, c'est à travers ces projets-là que j'arrive à me coucher le soir, puis d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de positif, puis de faire, tu sais, faire une différence, là. Moi,
Ben ouais, c'est très cool.
j'adore.
Moi, en fait, j'ai un petit peu d'expérience dans ce type d'organisme-là. Puis je sais pas si toi, présentement, c'est dans tes projets de créer un OBNL avec ça, mais peut-être ça peut être une option là, à moyen ou court terme. Je sais pas. Mais en fond, je sais pas si tu connais Déséquilibre, qui existait avant, que c'était un organisme là, qui faisait une course à relais Québec-Montréal.
OK,
Puis souvent,
non,
ils
je connais
faisaient
pas.
avec des jeunes, puis ils ont fait des projets comme ça aussi avec mettons du canot, des trucs comme ça, aussi dans auprès des Premières Nations. Puis je suis sur le conseil d'administration de Motivation Jeunesse, que tu connais peut-être, avec Luc Richer à Québec.
Ouais.
Ils ont un petit peu le même modèle là, de projet auprès des jeunes, mais eux autres font pas de Premières Nations. Fait que je trouve que ça se complète là aussi en même temps avec d'autres organismes, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se spécialisent là, dans le développement de projets santé ou sportifs auprès des Premières Nations. Je peux pas en nommer, c'est pas ma spécialité non plus, mais il me semble que c'est un créneau à exploiter, puis à pas à exploiter, mais à combler, là, parce que c'est un besoin. Là. Clairement, tu en faisais mention tantôt que sur plusieurs réserves, il y a peu d'activités.
Ouais. Ah, c'est clair. Puis écoute, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Puis juste l'autre jour, j'étais en train de glisser, puis je pensais à un projet que j'aimerais bien développer, puis qui ne prendrait pas de temps pendant tout. Justement, Marco Bédard, va falloir qu'on s'en reparle de ça. C'est le ski de fond, tu sais. Le ski de fond, je veux dire, tout ce que ça prend, c'est de souder une plaque qui te permet de faire deux traces deux traces de classique. Tu pines ça en arrière d'un skidoo. Puis s'il y a quelque chose qu'on a sur communauté, nous, c'est des skidoo, puis c'est de la forêt. Fait que dans le fond, tout ce que tu pines ça en arrière d'un skidoo, tu vas faire une loop. Le défi, je pense que c'est Pierre Lavoie puis sa gang, je pense qu'ils fournissent des skis des fois, là, des trousses de ski. Tout dans le fond pour augmenter l'éventail d'activités que le jeune peut faire. Parce qu'on sous-estime, à mon avis, l'impact nocif de l'ennui. L'ennui, là, je veux dire, tu veux attaquer les problèmes de dépendance. Tu veux attaquer les problèmes, justement, de piètre activité physique. Tu veux t'attaquer à la dépendance aux jeux vidéo. Tu veux t'attaquer à n'importe quoi. Attaque-toi à l'ennui. Donne des opportunités aux gens de faire des choses. Parce que si finalement, t'as rien à faire chez vous, t'en as pas de choses qui te motivent, je veux dire, je pose pas de questions, là. C'est sûr que cette personne-là va s'en virer vers des choses auxquelles elle a accès chez elle. Puis des fois, c'est plate, mais c'est la dépendance, c'est les jeux vidéo, c'est le junk, c'est la sédentarité. Puis, dans le fond, souvent, la clé, c'est juste de donner un maximum d'opportunités, puis chaque personne va la trouver, sa passion, là-dedans. Une des premières affaires qu'on parlait, quand on parlait de chiquette tout à l'heure, on parlait de motivation. Si t'aimes pas quelque chose, il y a absolument aucune chance que tu vas continuer à te battre contre toi-même pour continuer à la faire. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, on a beau dire aux gens qu'il faut qu'ils bougent et que c'est bon pour leur santé. La santé, c'est pas une raison suffisante pour te battre contre toi-même et faire de l'activité physique quand tu haïs l'activité physique. Je veux dire, peut-être si tu es au chapitre de la mort, si le docteur va te dire « OK, si tu bouges pas, tu vas mourir dans 2 ans », peut-être. Mais règle générale, la santé, c'est pas une raison suffisante. Il faut que tu arrives à accrocher les gens sur le plaisir. Il faut que tu arrives à trouver des manières que les raisons soient intrinsèques, tu sais, pour pratiquer ça. Ben, pour ça, il faut que tu donnes des opportunités. Faut qu'il y ait un éventail de choses pour que la personne puisse trouver ce qui lui plaît à elle, puis peut-être même pour que la personne puisse changer de temps en temps, tu sais, passer d'une activité à une autre, puis revenir à sa première et ainsi de suite.
C'est excellent. Puis dans le fond, au début là, de l'entrevue, on parlait de ne pas se fier juste sur une personne pour créer de la mobilisation à faire de l'activité physique dans une communauté. Mais ce que tu nommes là avec, mettons, le projet de piste de ski de fond, ben c'est extrêmement pertinent parce que, dans le fond, au lieu de juste reposer sur une personne, ben là, cette implication-là repose sur une infrastructure qui est beaucoup plus durable. Puis là, si tu as juste la personne qui trace les pistes de ski de fond, ben là, l'opportunité est créée. Puis ça peut engendrer une structure qui est plus viable sur le long terme. Fait que ça, c'est très intéressant aussi, là, au lieu de juste toujours se reposer sur des individus qui parfois quittent ou des choses comme ça. Fait que chapeau, ça, c'est un beau projet aussi. Ça s'en vient.
Ben, je sais pas, en fait, regarde, faisons-le. Puis oui, ben t'as raison. Puis justement, pour éviter que les personnes importantes quittent et que ça laisse des vides, ben dès le début, il faut penser à la relève. Dès que tu
Exact.
commences quelque chose, il faut absolument que tu impliques le plus de personnes possible. Fait que, par exemple,
Exact.
pour ce projet de ski de fond là, ben même si on a une personne qui dit, hey, moi, je suis motivé, je voudrais aller faire le traçage à tous les jours, ben tu lui dis, écoute, merci beaucoup, on est super content de t'avoir, mais on veut 5 autres personnes pour que pour qu'au total, on soit 6 ou 7 à se relayer. Comme ça, le jour où ça ne te tentera plus, ben, tu vas avoir d'autres gens qui vont être capables de le faire. Puis, justement, pour mettons, augmenter, disons, le nombre de piliers qui supportent
Exact.
notre initiative pour que si un de ces paliers-là tombe, ben, le projet, lui, tombe pas.
Cool. Merci David pour toute ta présence. Est-ce que tu veux terminer? T'as-tu un mot de la fin, une plug, quelque chose?
Ben, je l'ai donné un peu tantôt
Ouais.
par rapport à s'il y a des gens en entreprise qui aimeraient s'afficher pour comme supporteurs de la jeunesse autochtone. Ben, le défi des ancêtres, vous pouvez aller voir le défi des ancêtres.com pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis moi, je serais bien ouvert à m'associer avec certaines entreprises qui aimeraient s'afficher comme supporteurs. Puis sinon, ben écoute, un gros bravo à toi, Daniel, pour ce que tu fais avec ton entreprise. Je pense que c'est quand même capoté ce que tu arrives à faire partout au Québec.
Ben, merci beaucoup. Ben, merci pour ton temps. Je te souhaite bonne continuité dans tes projets. Puis garde-nous au courant de ça, là, c'est très intéressant.
Yes, merci.
Merci David. Salut.